dreams that are for your needs. If you make your mind up, then you will succeed. Been living here from day to day. Now I find out it's the only way. Where did I go wrong? My life carries on. For me to do, I can't see no other way through. I don't want to steal just to get my next meal. Yeah, stand up for what you want, stand up for all your needs. If you make your mind up, then you will succeed. Stand up for what you want, stand up for all your needs. If you make your mind up, then you will succeed. So cruel, and now I had to break nearly every rule just to survive, 'cause I need to get by. Stand up for what you want, stand up for all your needs. If you make your mind up, then you will succeed. Stand up for what you want, stand up for all your needs. If you make your mind up, then you will succeed. Stand up for what you want, stand up for all your needs. If you make your mind up, then you will succeed.
Big man, he's 6'1". He bought a home and organ just to have some fun. Pressure got too much, started to take its toll. Whoa, his life is just one big black hole. Whoa, Desmond, you should have held your head up high. Nothing is spirited when your feeling gets you down. As I sat there watching Desmond acting like a clown, my tears come falling down like rain. My tears come falling down like rain. Hampton was a hard man, this we all agree. Him sacrificed life for his family. Policeman come, put him in a jail. Whoa, you should've hear old Hampton yell. Whoa, Hampton, you should've felt your breath up high. He's lying dead in a cell. My tears come falling down like rain. My tears come falling down like rain.
Voilà, c'était les specials et c'est l'entonnoir qui va commencer tout de suite. Radio Libertaire. Thank you.
faudra que trop m'envoie. Pareil si ça passe. Voilà l'intraveineux. La solution à cause.
C'est l'entonnoir sur Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. L'entonnoir, émission critique sur la psychiatrie, comme tous les mercredis, de 9h30 à 10h30. Pour nous écrire, c'est l'entonnoir, 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Et on peut nous appeler pendant les plages musicales, pendant l'émission, au 01 43 71 89 40. Et je rappelle que si vous voulez soutenir la radio, eh bien, vous pouvez vous procurer la carte d'auditeur à Publico. Publico, 145 rue Amelot, 75011 Paris. Et le thème de l'émission L'Entonnoir, aujourd'hui, eh bien, on va parler du procès de Madame Dubois contre Monsieur Dubois.
Alors, bonjour déjà à tous. Donc, nous sommes allés suivre hier une audience au tribunal correctionnel d'Orléans dans l'affaire Madame Valérie Dubois, qui est la partie civile, contre son mari, M. Jean-Philippe Dubois, et leur ancien médecin de famille, le docteur Pascal Gay, qui était l'auteur de faux documents médicaux qui ont permis l'internement psychiatrique abusif de Madame Valérie Dubois en juin 2010. Au centre hospitalier départemental Georges Domaison de Fleury-les-Aubrais. Donc ça, c'est près d'Orléans. Voilà, donc nous avons suivi l'audience et nous avons rapporté des enregistrements de la personne, des gens venus la soutenir, comme par exemple André Buiton, et puis aussi un psychiatre, et puis une militante de Sans Remède et du réseau Démosthène.
Donc André Buiton, on le rappelle, qui est du CRPA, le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la psychiatrie.
Donc il y avait un communiqué du CRPA qui disait « À partir de cette affaire qu'on peut résumer comme étant une affaire d'internement psychiatrique abusif, par un conjoint voulant se débarrasser de son épouse, l'exclure de la garde de ses deux enfants, ainsi que du logement familial, et cela pour faire jouer l'accusation de folie. Nous voudrions souligner, aborder la question sous un angle plus général. Donc c'est ce qui a été fait, mais plutôt dans les discussions informelles. Que vous allez entendre aborder le thème de l'internement psychiatrique qui est très utilisé dans les conflits de couple, généralement sur les épouses et le plus souvent dès lors que celles-ci sont dépendantes matériellement de leur conjoint. Fréquemment, il s'agit d'internements qui médicalement n'ont pas lieu d'être, sont abusifs et en tant que tels sont constitutifs d'une violation des droits de l'homme. Ce biais est utilisé, voire recommandé, dans les préalables des instances de divorce pour obtenir au bénéfice du conjoint demandeur de l'internement un divorce dans les meilleurs termes au détriment du conjoint qui a subi l'internement psychiatrique et dont la parole est ainsi discréditée. Au surplus, il est fréquent que les médecins de famille prêtent la main à de telles stratégies et délivrent des certificats médicaux de complaisance ou, comme c'est le cas dans l'affaire de Madame Valérie Dubois, des certificats qui sont carrément des faux. En l'espèce, le médecin de famille incriminé, le docteur Gay, n'a pas vu sa patiente pour établir ses certificats médicaux et sa lettre d'introduction et a rédigé ses documents médicaux sur la demande et selon le point de vue du mari commanditaire de l'internement de sa femme. Nous faisons référence à cet usage déplorable et malheureusement trop fréquent des certificats médicaux de complaisance destinés à déclencher des internements psychiatriques dans le cadre de conflits conjugaux, mais également des conflits de famille, de voisinage ou dans le cadre de l'emploi. Nous entendons porté à connaître vers l'opinion publique cet usage trop fréquent de tels certificats médicaux de complaisance, générant des internements abusifs, mais également le fait que dans le cadre des conflits conjugaux, ce sont des épouses dépendantes matériellement qui sont le plus souvent les victimes de tels agissements et qu'une mobilisation des organisations de défense des droits des femmes nous semble, et comme celle intervenant pour les droits de l'homme, nous semble légitime et nécessaire. Voilà.
Et donc, c'est donc ce procès de Madame Dubois contre Monsieur Dubois pour internement sur la base de faux certificats médicaux dont il va être question aujourd'hui. Nathalie, tu viens de rappeler les faits. Eh bien, nous allons aussi donner le verdict auquel on a assisté, le délibéré. Alors, Jean-Philippe Dubois, le mari de Valérie Dubois, a été inculpé, déclaré coupable d'un des deux chefs d'accusation. Alors, les deux chefs d'accusation, c'était production et usage de faux. Monsieur Dubois est condamné pour usage de faux.
Et sur un des deux, sur un des trois même certificats médicaux.
Oui. Docteur Pascal Gay, lui, est coupable pour émission et usage de faux. Voilà. Alors, Monsieur Dubois a été condamné à 4 mois de prison avec sursis. Et Monsieur Pascal Gay, tout en étant coupable, a été dispensé de peine. Tous les deux doivent en revanche verser 800 euros dans le cadre de l'article 75.1. Voilà. Eh bien, pour continuer, nous allons pouvoir peut-être écouter
l'enregistrement de la discussion que nous avons eue au sortir de l'audience. Alors, Valérie Dubois, vous sortez du tribunal dans l'affaire qui vous oppose à votre mari ainsi qu'au docteur Gay. Est-ce que vous êtes satisfaite de ce qui s'y est passé, du délibéré ?
Je suis tout à fait satisfaite, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, vu comment ça avait été monté et l'objectif pour lequel on avait effectivement, ils ont orchestré cet internement, c'était en fait pour m'écarter de ma famille, de mon foyer et de mes enfants. Et je pense qu'avec cette condamnation, je vais pouvoir peut-être faire reviser les décisions qui ont été prises jusqu'à présent. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'internée, ben, je n'ai pas été beaucoup entendue dans les différentes procédures que j'ai eu à affronter, ne serait-ce qu'au juge des affaires familiales et au juge des enfants. Et voilà, jusqu'à ce matin, en tout cas, je n'étais pas encore entendue. Peut-être que là, maintenant, avec cette décision-là, les choses vont changer. C'est ce que j'espère, en tout cas.
Est-ce que ça a eu beaucoup de conséquences dans votre vie, cet internement d'un mois, et puis lesquelles
Oui, des conséquences, ça en a eu, parce que je suis quelqu'un qui est très famille. Et avec tout ça, ben, j'ai plus de contact du tout avec ma famille. Ce qui fait que ça a créé le vide autour de moi. J'ai perdu beaucoup d'amis en chemin, donc j'en ai retrouvé d'autres entre temps, mais voilà, il y a un petit vide qui s'est fait autour de moi. J'ai perdu donc la garde de mes enfants, que je vois en lieu médiatisé depuis 2 ans tous les samedis. Voilà. Et puis c'est vrai, le fait de ne pas être entendu, le fait de devoir se justifier, le fait d'aller partout avec ses documents, de les sortir, d'essayer de convaincre, c'est devenu presque une façon de se comporter, et c'est pas naturel. Voilà. Ça a été créé parce que j'ai vécu. Et puis un internement, je ne pense pas qu'on puisse sortir de là comme on sort de chez soi. C'est des images qui marquent, je vais vous donner une anecdote toute bête, mais il n'y a pas longtemps, j'ai reçu les pompiers pour le calendrier. Et quand j'ai regardé dans la lucarne et que j'ai vu le pompier, mon sang n'a fait qu'un tour. En fait, je me suis dit, on m'a retrouvé, ou alors qui c'est qui m'envoie encore quelqu'un? Et en fait, quand j'ai ouvert et que je me suis expliqué, il a rigolé, le pompier. Il m'a dit, mais non, c'est juste les pompiers pour le calendrier. Mais voilà, c'est traumatisant.
Oui. Oui, il y a aussi quand même quelque chose dans cette affaire qui, moi, me choque. Et c'est un thème qu'on peut soulever, qui est récurrent, c'est la non-prise en compte de la parole de la personne qui arrive, qui vient juste d'arriver, qui est psychiatrisée. C'est récurrent dans les témoignages qu'on peut avoir, nous, dans l'émission. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus ?
Ben, mon cas est un cas quand même typique, parce que les preuves que j'ai apportées aujourd'hui, ce n'est pas des nouvelles preuves, c'est des preuves qui étaient déjà là, qui auraient pu infléchir donc la position du juge aux affaires familiales et du juge des enfants. Déjà, une procédure d'internement comme ça, c'est quelque chose qui se passe déjà dans votre dos. On ne vous donne même pas la possibilité de vous exprimer. C'est pas vraiment contradictoire, c'est pas vraiment, ça ne respecte pas les procédures du contradictoire. C'est une violation tout simplement des droits, on peut dire de presque tous les droits, parce que finalement les droits de mes enfants ont été violés dans cette affaire, mes propres droits en tant que femme, en tant qu'homme, tout simplement, que personne humaine. Et je sais pas s'il y a des choses plus horribles que ça. Voilà.
C'est une négation de la personne, tout simplement, purement et simplement. Je trouve aussi quelque chose qui nous a quand même assez frappé, c'est quand même des pratiques qui pourraient sembler d'un autre âge, mais qui sont toujours actuelles. À une époque, les familles plus ou moins riches ou aristocratiques se débarrassaient de moutons noirs en les enfermant. Donc là, ça a toujours lieu, quoi. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Parce que ça fait quand même un peu peur. On pensait que c'était passé, mais bon.
Oui, non, je pense que ça ne passera pas. Ça pourra ralentir un petit peu, ou les gens pourront un petit peu avoir peur. C'est pour ça qu'il faut justement informer les gens de ce qui s'est passé cet après-midi, de comment les gens procèdent pour que. Et puis voilà. Et puis de la nécessité de respecter les procédures aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs grandes procédures qui ont été. Enfin, voilà. À plusieurs moments, ils auraient pu se rendre compte que c'était un internement abusif. Mais ça n'a pas fonctionné. Le système qui protège les malades n'a pas fonctionné. Après, pour une raison ou une autre. Voilà. Mais ça n'a pas fonctionné. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Quelque chose qui n'a pas de protection, qui n'a pas de cran de sûreté, c'est dangereux. C'est comme être dans le vide sans harnais. C'est exactement ça. Donc on peut tomber d'un moment à l'autre, et le pire c'est que ça arrive à n'importe qui. Ça arrive à des personnes qui partaient à vélo faire ses courses, et puis on s'est trompé de personne, on a pris la mauvaise personne, on vous demande pas qui vous êtes, des fois vous arrivez là-bas, ça se trouve c'est même pas la bonne personne qu'on a internée.
Oui, le directeur est censé vérifier l'identité des personnes.
Oui, moi ça
fait pas d'internet, c'est pas très fréquent quand même.
Moi c'était
pas. Mais interner quelqu'un pour de mauvaises raisons, ça, malheureusement, c'est plus fréquent. Mais il y a des exemples qui ont marqué les esprits. Hein. Le faux coupable, Hitchcock par exemple, où on se trompe de physionomie. Hein, ce sont des choses qui nous donnent froid dans le dos. Et la tête contre les murs d'Hervé Bazin, hein, ça aussi, ça marque les esprits. Hein. Il y a eu un film de Mocky, en fait, c'est Franju qui a fait le film, hein, mais Mocky est dedans. Voilà. Ouais, alors il y en a qui le réfèrent à Franju, d'autres à Mocky, enfin bon, peu importe. Et c'est un film très impressionnant, hein, c'est des images qu'on n'oublie pas. Et alors c'est une époque où l'hôpital psychiatrique sert de réclusion, mais c'est avant les neuroleptiques. Donc ils ne sont pas sédatés.
Ouais. 49,
voilà. C'est pas la neuroleptisation qui.
L'enfermement. C'est la loi 38.
Ouais. Ouais. Et l'enfermement sans beaucoup de soins, il faut bien reconnaître, hein, quand même. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose.
Et qu'il y ait des neuroleptiques ou pas, la parole est aussi peu développée.
Vous avez raison.
Moi, je crois que André Piton du CRPA, il y a quelque chose que Madame Dubois a dit qui est très important. Il y a des crans de sûreté quand vous avez été interné, des crans de sûreté pour garantir les droits des malades n'ont pas fonctionné. Voilà, tout à fait. Et ça, il faut se battre, et ça, nous, on se bat pour que ces crans de sûreté soient mis en position et que les droits des malades soient garantis. Et notamment les droits des personnes qui n'ont pas lieu d'être dans l'établissement psychiatrique, notamment. Ce qui est un cas de figure, voilà.
La plaidoirie de l'avocate de M. Dubois allait bien dans le sens d'une volonté d'interner Mme Dubois en passant outre la légalité, en fait.
Complètement. Moi, j'ai trouvé que c'était une plaidoirie qui, techniquement, pour une plaidoirie d'avocate, était bien faite. D'ailleurs, c'est cette avocate-là, c'est l'avocate de votre mari, même, je vois, qui a eu le plus de temps de parole. À ma connaissance, elle a plaidé en 25 minutes. Et sa plaidoirie, comme la plaidoirie de... la plaidoirie pour lui-même du docteur Gay, comme la plaidoirie de l'avocat du docteur Gay, a visé à dire que c'était l'état de santé de la malade, ou présumée malade, ou prétendue malade, qu'il fallait gérer, qu'il fallait assumer, et que pour le reste, peu importe. Et peu importe si on ne voit pas la malade.
En fait, ils ont plaidé l'héroïsme de leur client, vous comprenez ? Ils n'avaient même pas besoin de voir la malade pour savoir, ce qui montre vraiment un talent du commun. Et le mari n'a fait que venir au secours des enfants. N'écoutant que son courage qui lui disait d'interner sa femme, il se garda de retenir son bras vengeur.
En quelque sorte, moi j'ai cru reconnaître les grands thèmes et les grands axes des plaintes et des arguments de l'Union nationale des amis et familles de Madame Manteau, l'UNAFAM, la grosse coalition des parents de Madame Manteau, qui sont les gros demandeurs d'internement et de médication en France, qui ont été le principal lobby pour la. Oui, le silence dans les rangs, le silence institutionnel. L'UNAFAM a été le principal lobby demandeur de la légalisation des programmes de soins dans la loi du 5 juillet 2011. À savoir que la principale victime, c'est pas le malade. La personne qui souffre le plus, c'est pas la personne qu'on interne, c'est le parent qui souffre tellement d'avoir son parent malade et tellement d'avoir dû donner la contrainte et d'avoir fait soigner cette personne. Moi, dans ma propre famille, j'ai eu le cas de figure quand même pas tant, alors que moi, j'étais en pleine détresse et psychiatrisé pour des années. Il y avait ma sœur qui était tellement en détresse de m'avoir comme parent malade, qui a suivi une psychanalyse S-qualité avec d'excellents thérapeutes, alors que moi, j'avais juste droit à des cachetons.
Jusqu'où va-t-on ? Alors là, je voulais aussi rappeler que malheureusement, donc cette pratique... finalement toujours aussi actuelle et utilisée aussi conflits conjugaux, conflits de famille, mais aussi les conflits de voisinage ou dans le cadre de l'emploi. Donc on avait aussi reçu, on a eu des témoignages dans l'émission de gens qui avaient subi du harcèlement et que l'employeur essayait de faire passer pour fou, éventuellement, pourquoi pas l'internement, dépressif, mais plus parano, par exemple, ça c'est aussi un... Donc ça sert un peu, ça sert à tout, quoi. C'est un instrument, c'est devenu un instrument. À part ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est votre courage. On s'est rencontrés de manière informelle tout à l'heure. Vous avez quand même bien réagi, travaillé sur le dossier, vous êtes battu constamment, donc là quand même, sacré chapeau bas. Et ça aussi, ça me fait penser qu'il faut continuer donc à se battre, à informer, voilà, au maximum, quoi. Donc informer les gens que les choses sont comme ça, que non, il y a des recours juridiques, qu'il faut essayer de se rassembler pour gagner des choses. Donc c'est, pour moi, ce serait un petit peu la conclusion de cette affaire.
Des choses à dire.
C'est... Oui, moi j'aurais quelque chose à rajouter, André Vuitton du CRPA, c'est que pour avoir été confronté depuis une douzaine d'années où j'ai des responsabilités associatives antécédemment au GIA et maintenant au CRPA, très fréquemment à ce genre de cas de figure, il y en a eu une quinzaine en tout, une quinzaine d'affaires hein, depuis 12 ans. Avec certaines fois des condamnations obtenues assez significatives. Je comprends mal dans ces dossiers, sauf avoir l'angle de la stigmatisation sur l'internement psychiatrique, qu'on ne puisse pas avoir la jonction avec des organisations féministes. Je crois que franchement, les organisations féministes seraient bienvenues de s'intéresser à ce genre de problème, la psychiatrisation des épouses. La psychiatrisation des épouses quand il y a dépendance matérielle, plus précisément.
Qu'est-ce que vous entendez par dépendance matérielle?
Je veux dire, il est fréquent que dans les couples, soit l'épouse, la femme, soit en dépendance matérielle par rapport à l'époux. Et bien, bien que le logement appartienne à l'époux, hein, ou bien que, comme c'était le cas pour une affaire que j'avais suivie, pour des artisans boulangers-pâtissiers, soit l'époux qui soit le patron et la femme qui soit son employée au titre d'un contrat de travail pour avoir un revenu déclaré. Alors qu'en réalité, l'entreprise était bien à eux deux au titre de la solidarité des propriétés de couple. Si bien que c'est dans ces cas-là, d'ailleurs, quand il y a dépendance matérielle de l'épouse par rapport à l'époux, que quand l'époux veut se débarrasser de son épouse ou la faire marcher droit, l'internement psychiatrique est fréquemment donné. L'internement psychiatrique est d'autant plus fréquemment donné qu'il y a une situation de dépendance. De dépendance de la femme par rapport à son... On retrouve là la traditionnelle suggestion de la femme. Et j'ai du mal à comprendre que nous n'arrivions pas, dans un ensemble de ces dossiers, à avoir la jonction avec les organisations féministes. Je veux dire, je trouve ça même... Bon, c'est un problème.
D'accord.
Je crois à ce qu'il disait, M. Putain, c'est vrai qu'une personne qui, par exemple, n'a pas de revenus, n'a pas de... Déjà, c'est une personne qui, quand elle ne travaille pas, elle n'a peut-être pas forcément des gens, beaucoup de gens autour de, voilà, des connaissances, des relations et tout. Et c'est vrai que c'est plus facile d'enfoncer quelqu'un qui est un peu isolé. Et d'ailleurs, la stratégie, elle commence comme ça, en isolant les gens. Donc ça a été... Bon, déjà, moi, j'ai été déracinée puisque j'ai quitté mon pays, quitté mon travail. Donc en fait, finalement, voilà, il s'est trouvé que je travaillais, tant mieux. J'ai pu retrouver du travail, un logement, tant mieux aussi. Mais voilà, c'est dur de se relever. C'est plus dur que quand on a un travail. C'est vrai déjà qu'il y a l'employeur qui s'inquiète déjà quand vous disparaissez, qu'il y a des comptes à rendre, qu'il faut signaler qu'on est malade, que ça ne peut pas durer non plus trop longtemps parce qu'on doit revenir au travail. Donc il y a des personnes qui s'inquiètent pour nous. Mais c'est vrai que dans cette affaire, j'ai quand même été bien entourée, bien conseillée aussi, et que j'ai dû faire le tri, c'est vrai, entre les motifs et ce qu'il y avait à faire, parce que si on vient dans les motifs, après, ben, on n'est plus très efficace. Et c'est vrai qu'il y avait des gens compétents autour de moi, et je pense que c'est ça qui a joué beaucoup en ma faveur. Parce que c'est pas tout d'apporter des documents, il faut des personnes pour les mettre en valeur. Après, on a une parole, mais il faut qu'elle soit portée par un bon avocat, par des gens qui s'y connaissent dans ce domaine du droit de la psychiatrie, qui est un peu spécial. La preuve, c'est que l'avocat du docteur s'est trompé. Enfin, il ne savait pas trop. Il a dit qu'il ne savait pas. Il a demandé à la présidente si on pouvait effectivement saisir l'ordre des médecins à la fois, et le pénal à la fois, et le civil à la fois. Mais en fait, c'est trois domaines différents, et on peut lancer les trois procédures sans que ça ne pose aucun problème. Et ça, il ne le savait pas.
Et d'ailleurs, ça n'est pas fixé au plan jurisprudentiel, à ma connaissance.
Non. Mais à partir d'un certain degré de solitude, il y a un processus que Bourdieu a bien décrit, qui est l'autodisqualification des marginaux. C'est-à-dire que du coup, le travail de marginalité s'auto-entretient. C'est un phénomène social extrêmement transversal, on va dire. Hein. À partir d'un certain stade de marginalité, on fait son propre travail d'aggravation. C'est ce stade-là qu'il ne faut pas atteindre. Ouais.
Qu'il faut connaître pour ne pas atteindre.
C'est vrai.
Merci. On vient d'entendre Valérie Dubois. Et nous allons passer une musique et nous reprendrons ensuite avec une discussion avec le psychiatre, le docteur Delabriole, sur le personnage du psychiatre.
Last night when I told you all that story about the way things are,
On vient d'entendre The Selector, Missing Words. Et bien voilà, nous allons reprendre le reportage que nous avons fait à Orléans à propos du procès de Madame Dubois contre Monsieur Dubois pour internement sur la base de faux certificats médicaux. Eh bien, là, je propose qu'on écoute une discussion que nous avons eue juste après l'audience avec le psychiatre Philippe Champagne de La Briolle, avec qui nous discutons du rôle du psychiatre, le rapport du psychiatre avec le patient et le rapport du psychiatre avec les institutions. Oui, Radio Libertaire 89.4. J'interview monsieur.
Docteur de La Briolle.
Docteur de La Briolle.
Psychiatre à Fleury-les-Aubrais.
Qui vient témoigner en faveur.
Témoigner, enfin assister.
Assister, non, non. Voilà. Pas témoigner, mais assister à l'audience de Valérie Dubois.
Et voilà. Donc, par rapport à la non-prise en compte de la parole.
Alors, dans ce cas, dans cette affaire, on s'aperçoit que une personne qui est psychiatrisée sous l'effet d'un certificat médical et d'un acte préfectoral n'a pas, on n'entend pas sa parole, sa voix, ses observations. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ?
C'est vrai que quand quelqu'un arrive à l'hôpital psychiatrique avec une attestation suspecte sa santé mentale, normalement, la position du psychiatre qui la reçoit pour faire un certificat confirmant ou pas le bien fondé de l'hospitalisation, ça nécessite d'entamer un échange avec la personne. Donc on lui donne la parole. Bon. Mais pour autant, ça ne fait pas disparaître la dissymétrie entre les interlocuteurs, c'est-à-dire que d'une part, il y a quelqu'un qui lui-même occupe une fonction sociale, et de l'autre, quelqu'un qui est déjà sous l'hypothèque d'un jugement négatif qui fait que la rencontre a lieu, puisqu'elle a lieu à l'hôpital. Bon. Donc, cette parole, il faut la proposer. Voilà. Il relève de l'éthique du psychiatre de jouer le jeu sur ce plan, c'est-à-dire d'accepter que la personne ait quelque chose à dire sur cette situation qui est ingrate pour elle et qui l'oblige finalement à exposer un peu sa situation à des décisions qui ne relèvent pas d'elle. Voilà. Donc, en fait... il y a normalement un recours déontologique, à savoir que on peut penser que le médecin n'est pas d'emblée malveillant.
Oui.
Mais on ne peut pas annuler le fait que l'interlocuteur, patient, est déjà sous l'hypothèque d'une santé mentale altérée. Ce qui fait que dans cette situation-là, il faudra, d'une certaine manière, un certain cran au professionnel qui écoute la patiente pour mettre en doute ce qui est déjà en place, à savoir la rencontre dans un lieu spécialisé avec un arrêté de placement ou bien une HDT déjà constituée. Hein, voilà, d'HDT, enfin, donc maintenant ça s'appelle SDT. Bon, enfin, voilà, mais l'idée c'est ça, hein, hospitalisation à demande d'un tiers. Donc, finalement, l'indépendance réelle du praticien dans le rapport au patient, bon, se pose par rapport au risque qu'il prend lui-même en n'abondant pas dans le sens du cadre qui est déjà constitué. Mmh. Vous voyez ? Alors,
c'est-à-dire que si, par exemple, la personne
est potentiellement dangereuse et que s'il la laissait dans la voiture...
Voilà, la dangerosité potentielle est une question grave, parce que quelqu'un qui est dangereux va nuire à quelqu'un. Bon, donc, il s'agit d'évaluer dans quelle mesure ce terme de dangerosité est fondé. La dangerosité sur le plan psychiatrique ne peut être fondée en matière clinique qu'à partir du moment où il y a un persécuteur désigné, une personne qui est réputée pour elle être la cause de tous ces maux, que cette personne est désignée et qu'on se dispose à la faire passer de vie à trépas. Voilà. Quand on est dans une situation comme ça, on peut argumenter légitimement qu'il y a une dangerosité et qu'il faut soigner cet état qui croit qu'il est possible de souffrir moins en faisant disparaître quelqu'un que l'on accuse de tout. D'accord ? Voilà. Donc, cet objectif d'être attentif à un risque possible, mais un risque présent, c'est-à-dire pas seulement un risque virtuel, un risque qui a une actualité. J'entends quelqu'un qui m'explique que s'il est ruiné, qu'il a perdu son boulot, que sa femme est partie, que ses enfants ne lui parlent plus, que sa maison a brûlé, c'est la faute d'un gars qui habite là et qui lui a fait un mauvais regard dans la rue. Forcément, on met en doute ce discours-là. Hein, voilà. Alors là, il s'agit de savoir si finalement ce doute s'argumente, hein, c'est-à-dire que on va essayer de donner un objectif de soin à la personne qui est d'établir une relation lui permettant de revenir un petit peu sur cette idée qui manifestement échappe au sens commun. Vous voyez ? Alors, si l'on ne veut pas donner la parole au patient, si l'on estime que de toute façon la puissance publique, on va dire, a toujours raison, à ce moment-là, on n'est pas un expert, on est un complice. C'est-à-dire qu'on cherche d'abord sa propre sécurité. Je ne vais pas focaliser sur moi la contrariété de ces gens-là qui ont du pouvoir, même si cette personne à laquelle je ne veux pas de mal, d'une certaine manière, mais qui a certainement beaucoup moins de force de frappe, eh bien, je préfère que ça soit elle qui souffre plutôt que moi. Vous voyez ? Alors, il ne s'agit pas donc de dire que tout psychiatre à l'hôpital étouffe la parole du patient. Voilà, je pense que ce serait une position évidemment beaucoup trop radicale. Mais nous sommes de plus en plus, et depuis notamment que le psychiatre est, depuis la loi de 91 portant réforme hospitalière, un subordonné du directeur, hein, le médecin garant des libertés, dans l'exception française, qui maintenant est terminée, parce que le système est mort, hein, le médecin garant des libertés, depuis que c'est un subordonné, c'est fini. Alors, ça ne finit pas d'un jour sur l'autre. Il aura fallu 20 ans. Mais 20 ans, c'est l'espace d'une génération de professionnels, hein, le temps que ceux qui ont été formés à l'ancienne, d'une certaine manière, ben, disparaissent, hein, et qu'une génération formée à la trouille, à la docilité, à la dépendance, disent toujours comme le veut le manche. C'est-à-dire que le psychiatre, qui serait de bonne foi dans ce contexte-là, est un homme déchiré. Et puis ensuite, se lassant d'être déchiré, eh ben, il se place du bon côté. Ou alors il se bagarre, et à ce moment-là, il prend des coups. Mais il peut en rendre aussi. Hein ?
Que pensez-vous de l'usage des neuroleptiques en psychiatrie ?
Alors, les neuroleptiques, lorsqu'ils sont arrivés dans les années 50, ont transformé l'hôpital psychiatrique. Moi, je suis trop jeune pour avoir connu ça. J'ai mis les pieds en psychiatrie en 73. C'est quand même un peu de recul. Mais nos aînés qui ont vu arriver les neuroleptiques ont vu fermer les pavillons qu'on appelait d'agités. Il y avait des pavillons d'agités, il n'y a plus de pavillons d'agités.
Depuis qu'il y a de quoi les contenir.
Depuis le largactyle, hein, grosso modo. Bon. Le largactyle est loin d'être le neuroleptique le plus sédatif. Mais il a eu un effet sur l'agitation constante qui, évidemment, ne pouvait pas être tenu pour insignifiant. Avec l'arrivée d'un certain nombre de psychotropes, l'hôpital psychiatrique est passé de l'asile à l'hôpital, c'est-à-dire qu'on y entrait et on en sortait. Ça a changé tout un tas de choses ensuite. Hein. Alors, en ce qui concerne l'usage des psychotropes dans le cadre des hôpitaux, il est très important de savoir si l'objectif qui est recherché est un objectif de sédation pure, ce qui serait évidemment abusif, et ce qui est un objectif de restauration de la relation. C'est quand quelqu'un est trop angoissé, trop tourmenté, on ne peut pas discuter, on ne peut pas échanger, parce que ça glisse, comme l'eau sur les plumes d'un canard. Une personne trop tourmentée ne peut pas échanger, elle fuit, elle se cache, elle se bagarre, elle est dans la dispersion, on va dire, voilà. Donc l'objectif des médicaments, et alors, l'objectif raisonnable des médicaments, c'est de restaurer un niveau d'échange suffisant. D'échange suffisant. C'est-à-dire que quand le patient est pacifié, le travail du psychiatre n'est pas terminé. Il commence. Ouais, il commence. Voilà. Si le travail du psychiatre s'arrête une fois que le malade la boucle, c'est qu'on ne fait pas le même métier.
D'accord. Alors je reviens à la première question. De toute façon, dans toutes les étapes de la relation entre le psychiatre et son patient, la relation est inégale. Le patient a toujours moins de possibilités d'expression que le psychiatre.
Alors, c'est vrai. C'est vrai. Déjà, dans la maîtrise d'un vocabulaire, dans l'habitude un petit peu des manifestations psychiques, le psychiatre est un peu en avance de phase. Bon. Alors, est-ce que c'est d'une certaine manière mis au service du soin ou est-ce que c'est mis au service d'un rapport de force ? Bon. La question se pose assez fréquemment. Hein, assez fréquemment. C'est-à-dire que il me semble que le fait de considérer qu'il faut se passer à tout prix des psychotropes n'est pas une position raisonnable pour les raisons que j'évoquais, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit dans des conditions de dialogue suffisantes. Voilà. Et pour ça, un peu de tranquillisant ou un petit peu de neuroleptique ou un soutien antidépresseur, ce sont des choses qui aident. Quand elles aident, pourquoi s'en priver ? Mais considérer, encore une fois, que l'action biologique est le fin du fin du travail psychiatrique, c'est évidemment absurde. Or, à mon avis, c'est précisément l'expression de cette médiocrité du soin, si vous voulez, qui fait qu'on en fait le moins possible, et celui qui en fait le moins possible, il prescrit. Il prescrit parce qu'il fait faire, aux médicaments le boulot dont le médicament n'est d'une certaine manière que le facilitateur. Mais après, il faut travailler sur ce qui se passe. C'est-à-dire que quelqu'un qui se sent persécuté, eh ben, on ne va pas le laisser tout simplement se démerder avec son problème. On va essayer de travailler avec lui la façon dont s'est installée en lui cette conviction-là. Bon. Donc il faut aller chercher, en quelque sorte, dans la relation et la relation langagière, la possibilité de mettre un peu de lumière sur les divisions internes, finalement, sur la bagarre intérieure qui fait que la personne se sent perpétuellement le jouet des événements ou toujours en position d'infériorité face à ce qui va arriver ou toujours finalement perçue comme étant fragile par toute personne qu'elle croise dans la rue. Hein? Et donc à la longue, cette fragilité, comme si nous avions un crâne de verre, d'une certaine manière, enfin, où finalement la personnalité serait au vu et au-dessus de tout le monde. Et donc nous n'aurions plus d'intimité, plus de secrets, plus de mystère. Finalement, nous serions comme ça à la disposition du premier venu pour faire de nous un instrument, un jouet, en tout cas une victime. Hein, voilà. La victime d'un rapport de force. Donc la parole du patient, il faut la faciliter. Voilà. Les médicaments, il faut s'en servir autant que, pas plus que. Parce que le travail de fond, c'est pas le médicament qui le fait. on peut admettre que dans le travail, dans la lutte contre la dépression, il y a une action antidépressive qui est importante, hein, qui a une action réelle sur la dépression, qui serait, encore une fois, dommage de s'en passer, hein, voire parfois imprudent de s'en passer. Mais de toute façon, c'est quand même toujours tendre à une meilleure maîtrise par le patient de ce qui se passe en lui. Donc qu'il puisse se réapproprier une certaine gestion de lui-même à travers une histoire qui a pu être très douloureuse, avec des drames très violents, des défaillances parentales parfois terrifiantes, et malgré tout construire une vie d'homme, malgré ça, grâce au rapport humain offert, dans le meilleur des cas, par le milieu thérapeutique.
Par exemple, un patient qui a été hospitalisé de façon abusive ne profite jamais de ce travail de...
Alors, absolument, parce que l'hospitalisation abusive n'est pas le terreau d'un travail positif. L'hospitalisation abusive est de toute façon l'expression d'un rapport de force et d'une hostilité. Donc finalement, il est évidemment fondé que, par exemple, un patient qui s'est vu aligné, si j'ose dire, dans un certificat par un médecin qui ne l'a pas vu, hein, l'affaire est d'actualité, qui finalement se voit hospitalisé à la demande d'un tiers avec lequel il a une inimitié notoire, tout ça peut finalement, et qui en fait fait l'objet d'un certificat immédiat par un psychiatre pressé, ce gars-là n'est pas délirant lorsqu'il forme l'hypothèse qu'on se fout de lui. Vous voyez ? Bon. Donc l'abus, de toute façon, n'est pas une relation constructive. L'abus est un dommage qu'il faut faire constater.
Voilà, c'était. Nous sommes toujours à l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie sur Radio Libertaire 89.4. Et on vient toujours d'entendre le docteur Philippe Champagne de Labriole, donc, qui est médecin psychiatre interne au CHU Georges Daumaison de Fleury-les-Aubrais, à côté d'Orléans.
Donc là,
on peut présenter un peu.
Oui, voilà, on peut le présenter. En fait, là, il a aidé dans cette affaire. Disons qu'il l'a assisté, Valérie Dubois. Il a permis qu'elle récupère son dossier, ce qui n'est pas évident dans le milieu psychiatrique. Mais il a été le psychiatre relais pour lui récupérer son dossier. Alors, il faut dire que lui, il a une position particulière par rapport à l'institution psychiatrique dans laquelle il travaille. Il a été victime de harcèlement parce que il voulait être indépendant vis-à-vis de l'institution et garder son appréciation sur les patients. Des cas auxquels il était confronté. C'est-à-dire que par rapport, par exemple, à une procédure médico-judiciaire, quelqu'un qui arrive, qui vient d'être psychiatrisé, il n'allait pas forcément dans le sens de la direction. Il a dénoncé des abus, des choses illégales, des violations des droits de l'homme. Donc ça lui a valu beaucoup, beaucoup d'embêtements, un arrêt maladie de 6 ans, une affaire qui va jusqu'au ministère. Donc on peut dire qu'il a quand même, il s'est battu pour ses patients. Après, il y a le débat sur les neuroleptiques dont on vient de parler. Donc c'est encore un débat à continuer, que nous continuerons au fur et à mesure de l'émission.
De même que sur le terme hospitalisation abusive. Eh bien, on va continuer un petit peu de bavarder avec lui, avec le docteur de Labriole, pour conclure.
Il est à noter que quand elle est entrée dans l'hôpital psychiatrique, elle savait, elle savait qu'il ne fallait pas surtout qu'elle refuse les soins. Et en fait, heureusement, elle était très calme.
Oui.
Elle n'a pas eu de soins.
Oui, tout à fait.
Et elle a donc pu se défendre.
Tout à fait. C'est une situation tout à fait intéressante.
Tout à fait spéciale.
Il y a eu un abus.
Voilà.
Bon.
Parce que le problème, c'est que quand on a des soins de force, après, on perd forcément de ses capacités de se défendre.
Alors,
c'est le gros problème.
Alors, ça dépend des produits utilisés, oui, ça dépend des dosages, parce qu'on peut considérer qu'on est stressé par une hospitalisation abusive.
Bien sûr.
Et donc, on dormira peut-être mieux avec un somnifère, ou un petit peu de tranquillisant.
Oui, mais malheureusement, c'est pas...
Autant que, pas plus que.
C'est pas toujours des doses comme ça.
Ah, mais j'entends bien. C'est pour ça que je pense que Mme Bois a eu raison, d'une certaine manière, de garder son calme. Mmh. Hein, mais probablement, il lui a été... elle a dû quand même endurer le rapport de méfiance qu'elle a imposé.
Bien sûr. Hein.
Parce que quand dans le certificat, le médecin certificateur dit... Elle répond à côté habilement. Mais ça y est, le mot est dit. Parce que l'habileté et la maladie, c'est pas compatible. Hein? La maladie diminue les gens. L'habile, d'une certaine manière, montre son savoir-faire. Mais son savoir-faire, on va lui laisser. Pourquoi, d'une certaine manière, lui en vouloir d'être habile? Bon, si justement vos délires avaient été constatés, eh bien, il suffisait de l'enregistrer en quelque sorte dans sa mémoire et d'en faire la matière du certificat. Il suffisait de décrire le contenu. Hein? Bon, on n'a rien de tel. On a dit, derrière cette méfiance et cette habileté, il doit y avoir quelque chose. Ben, mais quoi? On ne sait pas. Et dans le doute, on garde. C'est se foutre du monde. Sauf que c'est un achat. Sauf que c'est le préfet. Ah oui, alors si moi, Foucault, je mécontente le préfet, je serai plus commis.
Oui.
Ah, Foucault ou un autre, hein.
Bien sûr.
Voilà. En l'occurrence, c'est lui.
Les intérêts sont très importants dans le problème.
C'est bien pour ça que depuis que le médecin est subordonné au directeur, tout étant sauf la déontologie, les usages médicaux, etc., tralala, hein, en réalité, depuis 20 ans, le médecin hospitalier devient un larbin. Il a en tête, d'abord et avant toute chose, sa propre sécurité. Et la loi HPST qui a pris... la loi de Roselyne Bachelot qui a pris effet en 2010 est une loi qui détruit l'hôpital. C'est une loi qui permet au directeur, sur proposition du président de CME, en tout, donc deux bons hommes, de mettre qui on veut où on veut. Eh bien, résultat, tout le monde fouette. Voilà. Quel est leur pouvoir réel? Ben, il faut le tester. Ça veut dire qu'il faut accepter de focaliser l'agressivité de ses complices sur soi-même. Mais si on ne veut pas le faire en temps de paix, il ne faut pas expliquer aux gens ce qu'il fallait faire sous l'occupation. Il ne fallait pas leur dire, bien entendu, allez à ce moment-là, mais... tous dans le maquis, vous comprenez? On voit pas que d'un là dans le maquis, mais en temps de paix, ils risquent quoi? Rien. Quoi, un peu de bagarre. Un peu de bagarre, ben, on se bat. On veut nous battre, on se bat. Voilà. Alors, l'idée, c'est de restaurer chez la personne l'exercice d'une liberté responsable. Hein? C'est-à-dire que finalement, il faut qu'elle se réapproprie sa propre vitalité, malgré l'humiliation ou la mortification d'une hospitalisation en psychiatrie, hein? Malgré la gêne de certains médicaments trop dosés, et ne pas désespérer de trouver un jour un thérapeute qui fasse son boulot. S'il y a un boulot à faire.
Mais c'est aussi tout ce que le mythe qu'il y a autour de l'internement aussi, en fait, qui peut provoquer le trouble, dans le sens où, par exemple, maintenant, les enfants de Madame Dubois ne la regardent plus du même regard.
Bien sûr. Mais là, finalement,
les travailleurs sociaux qui constatent qu'il y a le père dans l'insertion et finalement une mère qui se bat contre son propre internement, l'ancien internement, même infondé, les met sur leur garde, et la bagarre dans laquelle elle est les inquiète aussi. Parce que quelqu'un qui se bat, bah, un jour il peut se battre contre vous, il peut vous mettre en cause. On peut toujours dire, bah, les travailleurs sociaux, je veux bien, mais finalement vous êtes toujours du côté du manche. Est-ce qu'ils auront tort? Les travailleurs sociaux recherchent leur propre sécurité. On ne va quand même pas confier des enfants à une folle qui sort de l'hôpital psychiatrique. Mais est-ce que c'est une folle? Est-ce qu'elle était à l'hôpital psychiatrique à bon droit? Et si on l'a lâchée, est-ce que c'est à tort? En attendant, ça fait 2 ans qu'elle n'a plus ses enfants. Donc ça fait 2 ans que les enfants sont privés d'une mère. Alors était-elle parfaite ou imparfaite, etc. Est-ce que c'est le problème? Le lien parental, les enfants en ont besoin. Alors, si on veut, s'il n'y a que les gens parfaits qui ont le droit d'avoir des enfants, on va vers le dépeuplement, là. Hein? Donc, vous voyez, donc en fait, la situation qui... je veux dire, la disqualification à laquelle beaucoup de psychiatres se prêtent à leur corps défendant de la part du grand public tient, me semble-t-il, non pas d'abord à des abus qui existent, mais qui ne sont pas aussi fréquents que, d'une certaine façon, la très grande médiocrité des prestations, le côté basique du service rendu. Et plus le service rendu est basique, plus il est médicamenteux et biologique. Parce que pour raisonner, pour aider quelqu'un à retrouver un peu son aisance d'adulte, ben, il faut avoir beaucoup réfléchi. Et donc finalement, si on ne vous demande rien, eh ben, on ne lira pas, on n'approfondira pas les concepts, on s'en tiendra à une prestation de base, et puis si ça convient très bien, eh ben, on y restera. Le jour où il faudra partir dans le maquis, eh ben là, on ne verra plus la queue d'un. Et on y est déjà.
Merci.
Eh bien, voilà. Ainsi se termine l'entonnoir. On va juste finir avec quelques infos, ou une info plus exactement, celle de la permanence résistée à la psychiatrie qui a lieu jeudi 31 janvier à 19h au Rémouleur. Le Rémouleur, c'est 106 rue Victor Hugo à Bagnolet. Ça se trouve métro Robespierre ou Gallieni. Et là, on pourra assister à la projection de La Devinière, un film de François Dervaux, 1999, suivi d'une discussion libre. La Devinière est un lieu de vie en Belgique se revendiquant de la psychothérapie institutionnelle. Le 18 février 1976, elle ouvrait ses portes à 19 enfants réputés incurables, refusés par tous. Ni le sens commun, ni la psychiatrie, ni la pédagogie ne pouvaient les admettre ou les reconnaître. Ces enfants, La Devinière les a acceptés définitivement avec comme principe fondateur de ne les rejeter sous aucun prétexte. Le mot « asile », entre guillemets, reprend son sens. Un espace sans grille ni chimie où l'on donne le droit de vivre avec sa folie, vivre avec sa folie, entre guillemets. Durant plus de 20 ans, des liens de solidarité se sont forgés entre ceux que rien ne reliait. Voilà, c'est le film La Devinière, lundi 31 janvier à 19h, dans le cadre des permanences résistées à la psychiatrie. Et puis, nous pouvons finir notre émission par une petite rubrique, car nous avons la visite aujourd'hui d'Arnaud Le Piano.
Bonjour à tous, Arnaud Le Piano. Donc, une petite rubrique hebdomadaire. On revient, c'est la rentrée. Économie, revue de presse, économie. Les économies d'eau coûtent cher. Ok. Météo des neiges. Non, c'est pas météo des neiges, c'est météo, deux points, des neiges. Bon, confère météo d'hier, confère météo de la semaine dernière, confère météo de l'année dernière. En Picardie, les transports scolaires sont suspendus. On a mis les bus dans le téléphérique, c'est ça. La famille moteur, valeur refuge. Sciences sociales maintenant. Nous avons appris qu'il y avait 83% de merde dans le corps humain, 90% selon le corps médical, 120% pour la brigade canine, 250% selon la police. Sans transition, 5% de consommation de blonde en moins, 7% en plus de fleurs du pays. Personnellement, je préférais les chiffres du chômage. 28% du temps de travail, chômage toujours, 28% du temps de travail consacré à Internet, soit 3600 heures par an. C'est-à-dire, circulation, 5% d'accidents en moins depuis 2005, je ne sais pas si ça a un lien avec Internet, moins 40% de vols aériens, mais cette semaine, trois chaînes de TNT gratuites en plus, la télécommande, la confiance règne, la loi des chiffres, 2013, on ne peut toujours pas se baigner dans la Seine, de toute façon, je ne me lave pas beaucoup, dirait ma femme, et 2013, c'est lendemain. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? 2013, c'est Paris sous les bombes. Bah, je vais toujours pas travailler. Il neige. Voilà.
Merci Arnaud. Et en fait, aussi, on peut vous orienter par rapport à.